بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شافعي الإسلام نتلوانج وبيان الله عز وجل qui nous accepte ce soir pour accomplir la salat de Isha au Jama'a et donc d'assister à ce programme, on peut dire, dans des circonstances qui nous montrent bien les réalités du dunya. Les réalités et toute l'incohérence de ce dunya. Entre un frère qui vient de nous quitter et un frère, Mahboubun Ilayna, qui était bien aimé, qui était connu de tous, qui était respecté de tout le monde. Et au moment où on officiait la salat de janaza, au moment où l'imam allait commencer, on entendait les gens commencer à klaxonner, les feux d'artifice, c'est-à-dire al-qawm, al-nas, le peuple, les gens, ils se suffisent parfois de quelques événements de ce dunya pour trouver leur cœur rempli de joie et de contentement. Décalage donc entre ce qui remplit le cœur des gens de joie et les réalités de ce dunya. La réalité, c'est ça. Salatul janaza, ça, c'est ça le haqq, c'est ça la vérité. On peut aimer un sport, on peut avoir un attachement, et bien sûr, on doit être fier de son pays là-dessus, ce n'est pas du tout le débat. Mais je veux dire que, subhanallah, entre un événement qui fait bouger al-alam, le dunya, en quittant la salat, en quittant ma maison pour finir la salat al-isha, à 7h10, excusez-moi de vous le dire, il n'y avait pas encore le deuxième but. Je suis descendu. Et en marchant vers ma voiture, j'avais même pas besoin de regarder le score sur mon portable. On entendait de toutes les maisons des clameurs. Ad-dunya, yatoufu hawla. C'est comme si c'était un tawaf universel autour d'un événement qui n'est pas mauvais. Hein. On ne va pas de ce sens. Mais je veux dire que, vous voyez le décalage entre des gens qui, à l'instant T, ils sont en train de faire la fête, et une famille qui est en deuil. Et c'est ça le décalage du dunya. Et c'est là qu'on a besoin de réaliser que ce sont des jours qui sont comptés. Et ne nous laissons surtout pas distraire excessivement par tout ce qui est attrayant de ce dunya. Lors de la Salat al-Maghrib à 17h55, je faisais les ablutions à côté d'un jeune frère, un jeune, et ça m'a fait plaisir de le voir présent dans la Salat al-Maghrib. Et en regardant la Jama'a, qui était bien sûr un peu moins importante qu'en temps normal, on se dit que toutes ces personnes qui sont là, Salat al-Maghrib, c'est des gens qui n'ont pas voulu faire passer un loisir avant leur Salat en Jama'a. Et ça, c'est d'une noblesse, mashallah. Et ce jeune me dit, Moussab, dans 2 minutes exactes, le coup d'envoi. J'ai dit, Salat, sahih, dans 2 minutes, le coup d'envoi. Mais là où on est, wallahi, on est au meilleur endroit. Et le regard d'Allah sur nous, il est magnifique. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une bonne action qu'on accomplit avec sacrifice, avec mujahada. La bonne action que tu accomplis au quotidien, alhamdulillah, tawfiq min Allah, c'est Allah qui t'accepte. Mais une bonne action que tu accomplis en pesant, j'allais dire le pour et le contre, mais c'est maladroit de le dire, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Le ibadah, c'est ce qu'il y a de lumineux qui nous remplit de nour. Et tout ce qui est en dehors de ibadah, ça ne nous apporte rien. Mais quand on a le choix entre le dunya et l'adoration d'Allah, et que le serviteur fait le choix de l'adoration d'Allah, c'est vraiment une action qui est particulière, qui a une saveur. Et on ne pouvait pas savoir qu'il y avait un mayet. On pensait qu'on serait à 2 ce soir, ou à 3. Et puis du coup, alhamdoulilah, les gens sont venus pour la salat de janaza. Et on peut se poser la question, certains m'ont dit, mais est-ce que c'est raisonnable de maintenir le programme alors qu'il y a un événement sportif aussi important et que peut-être personne ne va venir? Et puis, on essaie de mettre le doute. Tu sais, le tafsir, c'est important. Les gens, ils viennent, ils suivent chaque semaine, verset par verset. Mais comme les gens sont pris avec quelque chose qui est occasionnel, donc peut-être ne pas faire programme pour que les gens ne loupent pas un verset. Tout ça, c'est waswasa min ash-shaytan. Le plus important, akhi fillah, ne fais jamais passer le dunya sur une action qui te permet de te rapprocher d'Allah. Montre à ton Rabb. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ostentation qui va dans le bon sens. An ta'budallaha ka'annaka tara. On n'est pas encore ce niveau d'ihsan, qu'on adore Allah comme si qu'on le voit. Mais c'est-à-dire que les muhadithines expliquent que le mu'min, quand il a une telle conviction en son Seigneur, une telle conviction en ce Seigneur qui الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Ce Seigneur qui te voit quand tu es debout dans la prière, qui voit quand le mu'min se prosterne, il s'assoit, il se prosterne, il revient de la position initiale, parce qu'Allah, il est Sami' al-Alim, celui qui entend tout, celui qui connaît tout. Ben, il a une telle conviction, et il est tellement appliqué dans sa salat, dans ses bonnes œuvres, qu'il a cette conviction qu'Allah le voit, et c'est comme si qu'il est devant son Seigneur, et donc il s'applique, et il montre à Allah sa dévotion, sa concentration, son engagement, et son amour pour lui. Alors que 1% de ces points qu'on a cités, si c'est orienté vers une créature, ça s'appelle comment ? Ria, l'ostentation, quand dans le protège, le petit shirk. C'est-à-dire montrer à Allah notre dévotion. Et donc, ikhwan fillah, à travers parfois, on n'a pas fait un grand sacrifice, hein. C'est pas comme si quelqu'un est malade, il vient à la prière, non, c'est quelque chose de simple, c'est délaisser une passion pour la salat jama'a, mais on a grand espoir que notre Seigneur qui connaît nos faiblesses, nos manquements, le manque de mujahada, le manque de sacrifice qu'on fait en temps normal pour le din, mais qu'il accepte notre déplacement pour la salat al-isha et le fait qu'on ait délaissé un dunya pour avoir n'importe qui aurait pu faire la salat al-isha à la maison, oui ou non? N'importe qui aurait pu attendre la fin du match et faire la salat al-isha à la maison. Mais ne pas rater une salat jama'a, ça c'est ajib. Et peut-être que cette salat qu'on accomplit qui vaut entre 25 et 27, selon les hadiths, les riwayats, entre 25 et 27 fois l'équivalent d'une salat qu'on accomplit individuellement, peut-être que c'est ce poids-là de la balance qui nous sauvera, yom al-hisab. Et il y a une action qu'on a un peu perdu de vue, qui n'est pas très connu, mais qui fait partie de la sunna, on appelle ça at-tawassul bil-a'mal as-saliha. On en a déjà parlé? At-tawassul, si, peut-être en français, at-tawassul bil-a'mal as-saliha. C'est prendre une bonne action comme intermédiaire pour obtenir une grâce divine. Je vous mets sur une piste. Les trois jeunes qui étaient dans la grotte. Khalas, tout le monde a compris. Tout le monde a compris? Les trois jeunes qui étaient dans une grotte et il y a eu un ébouli, l'entrée de la grotte s'est obstruée. Et chacun a dit, on va demander à Allah de nous venir en aide en mettant en avant une action qu'on a accomplie, une action qui est particulière, qui a vraiment plu à Allah. Et donc chacun de ces trois jeunes, ils ont mis en avant l'action où certainement ils étaient le plus sincères. Il y en a un qui a parlé de ses parents, que jamais il ne donnait du lait à sa femme et ses enfants avant de donner à ses parents. C'est le hadith qui est très connu. Et en conclusion, en durus de ce hadith, les muhadithins disent, ainsi, lorsqu'un croyant est dans une situation difficile et qu'il a grandement besoin de l'aide d'Allah, ben, il doit mettre en pratique ce amal, dire à Allah, à tel moment de ma vie, j'ai accompli cette action, li wajhik al-karim. Pour toi, uniquement pour toi. J'ai essayé de trouver l'action dans laquelle on a été le plus sincère. Et l'action dans laquelle il y a le plus grand sacrifice. Et par ça, mettre cette action en avant. Ya Allah, c'est cette action-là, tu l'as guéri, tu l'as accepté. Accorde-moi telle chose, protège-moi contre telle chose, permets-moi de concrétiser, et ainsi de suite. At-tawassul bil-a'mal as-saliha. Et ainsi, notre vœu, notre souhait, par ce petit mujahada, c'est nous demandons à Allah Rabbul Izza de mettre l'amour du Coran dans nos cœurs. Allahumma ja'al al-Quran al-azima rabi'a qulubina. Que le Coran soit vraiment ce qui nous donne vraiment notre ligne de direction, notre façon d'avancer et qui nous permet de comprendre ce dunya et de construire notre akhira. J'aime ce dua, Allahumma ja'al al-Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ghumumina, et qu'à travers les versets, on trouve l'apaisement et on trouve le réconfort dans n'importe quelle situation d'épreuve, de difficulté de ce dunya, et que ce Qur'an soit notre guidé fi dunya wal akhira. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte et donc accepte ce majlis qui commence avec ce petit sacrifice qui reste quand même un mujahada lillahi Azza wa Jalla. Et nos doa vont bien sûr pour ce frère qui nous a quittés, qui à cet instant est toujours en attente du passage dans l'autre monde. Il est déjà dans le monde de l'au-delà parce que son âme a quitté ce dunya, mais il n'a pas encore rejoint le maqbara, la tombe où les malaïkas l'attendent pour les questions. Les questions qui sont posées à chaque être humain qui est posé, subhanallah, dans ce trou. Et nous demandons à notre Seigneur, Biasma'il Husna wa Sifatil Ula, de faciliter le passage dans cette étape de la tombe et que Allahumma thabbithu 'inda as-su'al, qu'Allah lui donne la force et la persévérance pour répondre aux questions des anges et que sa tombe soit rawdatun min riyadil janna, un jardin du paradis, et que de cette tombe Allah lui fasse voir sa demeure de le janna et qu'il puisse sentir le parfum du paradis et qu'Allah accorde le sabrun jamil, la belle patience à sa famille et à ses proches et que ses proches continue à vivre dans le sirat al-mustaqim, dans le droit chemin, et qu'un jour, Allah les réunisse dans le Jannah. Parce que ce paradis, c'est notre objectif. Jannat wa adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Le paradis où ils vont accéder avec leurs ascendants, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, leur famille, époux, épouse, et leurs descendants. Être de le Jannah, se retrouver de le Jannah avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos parents, nos grands-parents, c'est la consécration pour le mu'min, pour le croyant. Qu'Allah lui accorde cet honneur et nous accorde tous, incha'Allah. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu alkhayru manu'a. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ce verset qui rappelle que l'homme est instable. L'homme a été créé de cette façon, il est d'une nature inquiète, anxieuse. On est toujours angoissé, la peur du lendemain, qui découle d'un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Idha massahu sharru jazu'a. On avait expliqué la dernière fois, quand le malheur le touche, il est abattu. Ça a été commenté la dernière fois, non? On avait expliqué, hein? Idha massahu sharru jazu'a. C'est-à-dire quand le croyant, quand la personne, on ne parle pas du mu'min, le mu'min on verra après, mais on va dire que le commun des mortels, dans la nature de l'être humain, lorsqu'il nous arrive une difficulté, ce que les gens appellent un malheur, la personne est déprimée, la personne est découragée. Ibn Kathir, rahimahullah, explique que c'est là un manquement clair dans l'insan, chez l'être humain, que cette épreuve ne lui permet pas d'avancer spirituellement. Alors que l'objectif des épreuves, c'est, il y a trois objectifs dans les épreuves. Que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème financier, en rapport avec notre travail, en rapport avec la santé de nos enfants, quelle que soit la nature des épreuves, wa nabluwannakum bi shay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa ath-thamarat. Les mufassirin disent, avec ces cinq exemples, on a à peu près toutes les épreuves qui peuvent toucher un être humain dans ce dunya. Et après qu'Allah Rabbul Izza ait cité ces différentes catégories pardon, d'épreuves, Allah Rabbul Izza conclut par « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » annonce la bonne nouvelle aux « sabirin » aux patients. Et c'est quoi la patience? Le « sabrun jamil » c'est quoi? Il y a une différence entre être patient et être résolu. Il y a une différence entre être patient et passer sur une difficulté, faire abstraction de l'épreuve. On ne parle pas de faire abstraction de l'épreuve. Faire abstraction de l'épreuve, c'est essayer d'oublier. Non. Après, il y a des gens qui oublient de différentes façons. Il y en a qui vont boire pour oublier. Il y en a qui vont essayer de trouver un loisir, qui vont voyager, qui vont essayer de se changer les idées. Mais quand Allah t'éprouve, l'objectif n'est pas que tu te changes les idées. Le but, c'est ibtila. Et ibtila, qu'on appelle également une fitna. Wa nabluukum bil khayri wa sharri fitna. C'est dans cet ordre-là, non? Bil khayri wa sharri fitna. Allah t'éprouve par ce qui est bien, mais également ce qui est difficile. Et le fitna, si on remonte à al-lura, le fitna, c'est un peu comme si que vous triez quelque chose pour garder ce qui est pur et jeter ce qui est mauvais. D'accord? Comme à l'époque, peut-être les chercheurs d'or, ils triaient, ils gardaient ce qui était les pépites d'or, ils jetaient les pierres. Ou comme nous, n'importe quoi qu'on trie, on a bien compris le sens de fitna. C'est Allah, Azza wa Jal, parle de fitna. Il connaît, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Mais ça, c'est le asbab qui va distinguer les gens entre ceux qui résistent, ceux qui se montrent, ceux qui acceptent. Parce que dans la patience, il y a énormément de choses à dire. La patience, c'est avant tout l'acceptation. La patience, c'est pas juste d'être solide, d'être fort psychologiquement et ensuite de passer à autre chose. Non. Parce que lorsque une personne subit une difficulté, une épreuve et qu'il ne l'évacue pas et qu'il n'arrive pas à donner un sens à l'épreuve et qu'au contraire, il va essayer de passer à autre chose, le cerveau garde l'empreinte de cette difficulté. C'est ce qu'on appelle un traumatisme. Et un jour ou l'autre, quand il y aura une situation similaire, même qui peut toucher quelqu'un proche, ou une situation qui se rapproche de nouveau de nous, comme la perte d'un proche, et que quelqu'un d'autre est malade, va à l'hôpital, ben ce traumatisme va ressurgir. On va avoir une situation de panique, de crainte, parce qu'on a perdu papa, on a perdu un enfant, on a perdu un proche, et qu'on n'a pas réussi à donner un sens à cette épreuve. On n'a pas réussi, on n'a pas intégré que c'est une épreuve et que c'est la sunnah d'Allah, c'est l'organisation d'Allah. On a juste essayé d'oublier. Mais c'est pas le but de l'épreuve, ce n'est pas que l'être humain oublie. Quand Allah envoie quelque chose, c'est « hikmatun balira » pour une sagesse. Et dans chaque décision d'Allah Azza wa Jal, il y a un bien, il y a une sagesse. Même les décisions les plus lourdes qui nous fend le cœur, qui nous fait pleurer des larmes de sang, dans chaque décision d'Allah, il y a un khair. Le prophète, alayhi salat wa salam, n'était-il pas attristé par la mort de Hamza, radiallahu anhu, et comment il a été mutilé? Le prophète, alayhi salat wa salam, n'a-t-il pas pleuré le décès de sa fille lors du retour de la bataille de Badr? Quelle fille, à Shu'aib? Ruqayya? La fille du prophète décédée après la bataille de Badr, qui était Maya Uthman, Ibn Affan. Tout ça, c'était des difficultés. Mais le mu'min arrive à donner un sens et à intégrer le fait que ce sont là des situations qui ont été créées par Allah Azza wa Jal. Et Allah seul sait les tenants et les aboutissants. Une personne peut dire dans un moment de... Et Allah nous protège, des moments où les personnes parlent, s'expriment et sans qu'il y ait les limites de iman. Il y a des fois où, dans le désespoir, le mu'min ne doit jamais désespérer, attention, dans le désespoir, une personne peut prononcer des paroles de kufr, qu'Allah nous protège. Dans le désespoir, une personne peut prononcer des paroles de kufr et qu'Allah nous protège. Ça, c'est quand tu rates l'épreuve. Afia. Nas'alullah salamat wa afia. Et aucun croyant, ça paraît dur ce que je vais dire, aucun croyant n'a le droit de rater une épreuve. Parce qu'aucune épreuve ne touche un croyant sans qu'Allah Azza wa Jal, celui qui l'a envoyé, n'ait parfaite connaissance de ton potentiel et de ta capacité à l'encaisser et à gérer. Parce qu'Allah n'éprouve jamais une personne au-dessus de ses capacités. Hadith, Ashaddul nasi bala'an al-anbiya. Les gens les plus éprouvés, c'était les prophètes. Pourquoi? Parce que ce homme de la foi, c'était les anbiya alayhimu salatu wassalam. La plus grande maladie de l'histoire de l'humanité a touché qui? Ayyub alayhi salam, Job. Combien d'années? 18 ans de maladie. À un tel point que personne ne pouvait plus l'approcher avec des plaies purulentes desquelles sortaient des vers. C'était une maladie qu'aucun être humain de ce dunya n'a jamais connu. Une des personnes qui a été les plus trahies de ce dunya, Ya'qub alayhi salam, Yusuf alayhi salam, une des personnes les plus éprouvées, c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, les anbiya, c'était les modèles de iman, les exemples, uswatun hasana, mais en même temps, les épreuves étaient à leur niveau. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal. Ensuite, ceux qui ont les plus hauts degrés de foi. Ainsi, akhi fillah, ukhti fillah, quand Allah Rabbul Izzah t'envoie une difficulté, sache que c'est une épreuve qui vient de ton Seigneur. Et qu'à travers cette épreuve, il y a une sagesse, il y a une hikmah. Et quand Allah t'envoie cette épreuve, c'est parce que ton Seigneur sait que tu es capable de gérer, de résister à cette épreuve. Et Allah attend de toi une réaction de foi qui te permettra d'avancer. Et c'est quoi avancer après une épreuve? Obtention de hasanat, de récompense. Pardon, kafara, les sayyi'at, pardon des péchés, et raf'un lid darajat, le grade augmente. Ça, c'est ce que le mu'min obtient avec les difficultés, avec l'épreuve. Et au-delà de ça, en termes de taqarrubu ilallah, de proximité avec Allah Azza wa Jal, il va grandir en imanun billah. il va grandir dans son iman billah, le premier pilier de la foi, al-iman billah, il va se sentir plus proche de son Seigneur. Un, il va grandir dans al-iman bil qada'i wal qadri, la foi sur le destin, parce qu'il arrive, il a pu donner un sens à ce qu'il arrive et orienter ça vers son Seigneur et essayer de trouver les qualités pour qu'Allah soit satisfait de lui et lui permet d'avancer. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous permet d'avancer autant que l'épreuve. Un des pieux prédécesseurs a dit que des fois, Allah sait que certains parmi nous ne pourront pas atteindre un haut degré de foi et un haut degré de le Jannah uniquement avec leurs bonnes œuvres. Ainsi, Allah envoie les difficultés afin de tirer le croyant, on va dire, de cette situation qui est parfois vide de lumière et de distinction spirituelle, pour lui accorder un haut grade par le biais des ptila. Et le mu'min qui intègre le sens des épreuves, je vous assure, il concrétise déjà la foi sur le destin, et il devient l'homme le plus heureux de ce dunya. Pourquoi ? Parce que rien ne se produit sans qu'il ne comprenne, sans qu'il n'arrive à donner un sens et à tout remettre à Allah Azza wa Jal, à se confier à son Seigneur. Et ça, c'est un des résultats des épreuves. Une difficulté te touche, immédiatement tu vas faire deux raka'at et tu vas demander doua. C'est-à-dire que tu t'en remets à Allah avant d'aller te plaindre aux gens. La pire des réactions, ce serait une épreuve, une difficulté, et la personne va l'écrire sur les réseaux sociaux. Il va tweeter, il va mettre sur Facebook pour que les gens compatissent. Tu vas avoir quoi ? 500 personnes qui vont cliquer, je suis triste, je sais pas comment on appelle ça, le petit bonhomme qui pleure, et avec des messages. C'est avec ça que tu augmentes de grâce. La wallah. Garde les épreuves, ne parle à personne de tes difficultés, ne parle à personne de tes bonnes actions. Ne va pas dire que, subhanallah, je prie la tahajjud tout le temps, tous les jours depuis 12 ans, vous ne savez pas. C'est maintenant que c'est terminé. C'est maintenant que l'action n'a plus de valeur parce que tu en as parlé. Tant que ça restait un secret entre toi et Allah, c'était magnifique. Ne va jamais dire aux gens que, tu ne sais pas, moi je suis adhérent dans 7 mosquées de Lille et dans chaque masjid je donne 50 euros par mois. Ça, khalas, t'as perdu les hasanat parce que tu l'as exposé aux gens. Ne parle jamais aux gens de tes bonnes actions. Ne parle jamais aux gens de la faculté que tu as, de la facilité dont tu disposes pour t'éloigner des péchés. Ne va jamais dire aux gens, moi mon contrôle du regard il est parfait. Jamais mon regard ne se pose sur une femme étrangère. La wallah. Parce que ça aussi, ça peut être comme un signe d'ostentation. À l'exception, on va dire, des personnes qui arrivent à un certain âge et ils veulent donner un exemple aux jeunes. Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, hafidhahullah, qui à l'époque où on a relaté, il avait déjà plus de 81 ans. Il a attesté que de toute sa vie, son regard ne s'est jamais posé sur une femme étrangère. Cheikh, en chaise roulante, qui vient, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui vient faire les dars, comment s'appelle son livre là ? Minhajul ? Comment s'appelle ? La voix du musulman, non ? En français, un livre qui est magnifique. Elle dit, de toute sa vie, son regard ne s'est jamais posé sur une femme étrangère, jamais regardé avec une mauvaise pensée. Il a rêvé d'Ali. Ça reste des modèles, des exemples. Mais au-delà de ça, ne parle jamais aux gens de tes bonnes œuvres, ne parle jamais aux gens de ta facilité, de faculté pour être éloigné du haram, et également ne parle jamais aux gens de tes difficultés. Garde ça entre toi et Allah, parce que cette épreuve-là, Allah l'envoie pour toi. Plutôt que de le crier sur le toit, sur les toits, pleure dans tes tahajjud, lève tes mains, parle à ton Seigneur. Et on va dire que ça fait partie des thamarat à l'ibtila, des résultats de l'épreuve. Allah te permet d'orienter ton cœur vers lui sincèrement et régulièrement de créer cette relation de cœur avec ton Seigneur. Fa inni qarib, c'est la proximité avec Allah qu'on crée par le doua, par les invocations. Et vous savez, une doua qu'on fait quand tout va bien, et une doua, une invocation qu'on fait dans une situation de shidda, il y a une différence. Et on le ressent. Quand vous êtes vraiment dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la douleur, dans le stress, dans l'angoisse, les doua que vous faites, C'est comme si que c'est plus votre bouche qui parle, c'est votre cœur directement qui invoque Allah Azza wa Jal. Et ça, ça nous permet également de faire un bond spirituel. Ça nous permet de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On revient un petit peu en arrière avec le hadith qui rappelle qu'Allah éprouve en fonction de la capacité, parce que ça c'est un point essentiel pour qu'on arrive à intégrer le fait que si l'épreuve me touche, c'est qu'Allah a jugé. Et Allah alimun bidhat as-sudur, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines, il connaît le niveau de chacun. Allah sait que Fulan ibn Fulan pouvait gérer cette épreuve. Ainsi, ashaddu an-nasi balaa'an al-anbiya, on avait dit les prophètes, thumma al-amthal fal-amthal, ensuite ceux qui se rapprochent le plus. C'est-à-dire, et la suite du hadith, faman kana fi dinihi salaba zida fi bala'i, celui qui a la fermeté dans sa foi, c'est-à-dire la personne qui a un iman qui est fort, qui est qawi, qui est mashallah rempli de lumière, avec des bonnes œuvres qui suivent ce iman, cette foi, alors zida fi bala'i. Et ça, ça peut paraître incohérent. Ça peut paraître paradoxal. On aurait pu penser qu'Allah va nous annoncer, par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsque votre foi, elle est présente, elle est forte, les bonnes œuvres suivent, ben Allah va te protéger, va t'accorder une vie heureuse de ce monde. Non, Allah t'envoie beaucoup plus d'épreuves. Pour que ce mu'min, écoutez, ça c'est kalam ajib de ulama, pour que le mu'min arrive à se détacher progressivement de tout ce qui le rattache encore au dunya. Pour qu'il réalise que tout ce qu'il y a de ce dunya est éphémère. Le corps est éphémère, la santé est éphémère, l'argent est éphémère, la famille est éphémère, les enfants sont éphémères. L'iman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Le plus important, c'est celui qui est éternel, al-hayy al-qayyum, c'est Allah. Et à force de cumuler, de vivre des épreuves, le mu'min finit par, entre guillemets, perdre confiance en ce dunya. Vous me suivez ? Il finit par réaliser le caractère éphémère de ce dunya pour avoir une relation qui est profonde avec Allah par les du'as, une conviction et une orientation de sa vie qui est pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, Allah fait ton tazkiyah. Ainsi, Allah va t'éduquer. Ne jamais demander une épreuve. Hein. Ne pas demander à Allah envoie des épreuves pour que j'arrive à ce niveau. Non. Mais quand l'épreuve arrive, l'accepter et savoir que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le char de Riyad al-Salihin, on a cité ça, non? Parce que ça, c'est des paroles qu'on a. On a besoin de boire comme du petit lait. Allez, on va dire, de boire comme du zamzam. Il y a dit quatre catégories de personnes face à l'épreuve. Il y en a ceux qui désespèrent. Ça, on n'a même pas besoin d'en parler. Il y en a ceux qui l'acceptent, mais intérieurement, ils auraient vraiment aimé que l'épreuve touche quelqu'un d'autre ou que ça ne leur arrive pas. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien. Mais intérieurement, il ronge sa colère et il est frustré qu'Allah l'ait éprouvé alors qu'il est quelqu'un qui fait ça, qui fait de bonnes œuvres, qui prie, alors que son voisin, lui, ne vient pas à la mosquée, mais il vit normalement. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est là où on monte de grade. Le mu'min qui accepte l'épreuve, qui s'en remet à Allah, qui fait du'a, qui attend l'ouverture de la part d'Allah. N'est-ce pas là magnifique ? On aurait pu penser que c'est le summum. Mais au-dessus de cette catégorie, il y a les khawas, il y a al-dhahab, l'or pur. Ça, c'était les sahaba. Et peu parmi les gens des générations qui sont venues après, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils remercient Allah. Ajib, ça. Ils remercient Allah qu'Allah, subhanallah, a pris compte de cette personne. Quand la personne est éprouvée, réalise que Allah Rabbul Izzah a eu un regard de clémence sur moi. Allah s'est intéressé à moi. Il ne m'a pas laissé vivre comme monsieur tout le monde qui vit normalement avec son rythme du matin jusqu'au soir et une vie terne et où il n'y a rien qui se passe et que tout va bien au contraire. Allah t'envoie des difficultés, c'est parce qu'Allah attend quelque chose de toi. Il y a déjà, il réalise qu'Allah a pensé à moi. Allah a un regard différent sur moi par rapport aux autres personnes. Et il remercie Allah parce qu'il sait pertinemment qu'est-ce qu'Allah va lui accorder, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'Allah lui accorde à travers les épreuves. Ça, c'est vraiment le plus haut degré de iman. Ainsi donc, inna l'insana khuliqa halu'a, l'homme dans sa nature, l'homme est instable, l'homme est très inquiet. Idha massahu sharru jazoua, quand le malheur le touche, il est abattu. Et comme Ibn Kathir et d'autres mufassirin disent que cette personne malheureusement n'arrive pas à vivre l'épreuve comme un tremplin vers le akhirah. comme un tremplin dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, et au contraire, il va s'accabler, il va s'apitoyer sur son sort, et il ne réussit pas l'épreuve qu'Allah nous protège. Ça, c'est dans la nature de l'être humain, de se laisser abattre et de se laisser aller. Et Ibn Kathir dit, « Wa ayisa an yahsula lahu ba'da dhalika khair » Al-yas, c'est le désespoir. Que la personne, quand il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans une difficulté, ils disent, hein, c'est comme s'ils sont dans un trou. Et ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Ça, c'est des paroles de désespoir. Et on ne doit, ça, c'est dans la nature humaine, ça. Hein. Il y a que, pourquoi on dit la nature humaine? C'est que l'être humain est créé comme ça. Maintenant, on va monter de grade quand on va apporter iman billah, iman bil qada et wal qadr. Là, tu te dénatures dans le bon sens pour arriver à un degré de spiritualité où le croyant s'en remet à Allah dans toutes les situations de sa vie et ainsi il ne sera pas halou'a et dans la difficulté il ne sera pas jazou'a et lorsqu'Allah lui envoie quelque chose de bien, il ne sera pas non plus manou'a parce que wa'idha amassahu al-khayru manou'a et quand le bonheur le touche, il est refuseur, un peu ambigu le terme refuseur, c'est-à-dire que lorsque Ibn Kathir dit idha hasalat lahu ni'matun min Allah bakhila bihi ala ghayri wa mana'a haqq Allah fiha. Lorsqu'Allah lui envoie son aide, lorsqu'Allah lui accorde quelque chose de bien, il oublie comment il était dans ta clé, dans difficulté, comment il avait besoin d'Allah. Lorsqu'il obtient quelque chose, il va s'enfler d'orgueil et il va redevenir hautain, vaniteux, fier de lui, persuadé que ce qu'il a, c'est grâce à ses efforts, c'est la sueur de son front. Et oublier que comment Allah t'a aidé, comment Allah t'a tiré de la difficulté. Et imaginez une personne qui était dans une situation, allez, on va prendre un exemple qui est beaucoup plus compréhensible, une situation financière difficile. La personne est au chômage. La personne n'a même pas de quoi terminer le mois, payer son loyer. Il est obligé de tendre la main à droite et à gauche. Situation de Ibtila. Et Allah lui envoie son aide, il obtient un contrat, il obtient un logement, il obtient des aides. Et nous vivons dans un pays, alhamdulillah, où les aides sont ni'matun min Allah. Je ne pense pas que dans le top 5 des pays au monde, il y a un pays comme le nôtre, la France et la Réunion qui suit la France, où une personne, en termes d'humanisme, il peut être aussi soutenu, avoir autant d'aide. Et ça c'est ni'matun min Allah azza wa jal. Et donc, cette personne a obtenu ses nusra de la part d'Allah et il s'en sort. Il a un salaire et peut-être même qu'il rencontre, alhamdoulilah, une sœur, il peut se marier. C'est-à-dire que la personne s'en est sortie de l'épreuve. Il a obtenu nasrullah. Maintenant, une autre personne qui est dans la même situation que lui initialement, lui tend la main. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai telle difficulté. Il dit, non, si tu veux t'en sortir, tu n'as qu'à travailler. Il y a akhi, hal nasita. Tu as oublié que quand tu étais cette personne, c'est Allah qui t'a aidé. Ça, c'est la pire des choses. Wa'idha, c'est le sens de, à travers une situation de vie, un exemple, wa'idha massahu al-khayru manu'a, idha hasrat lahu ni'matu min Allah, il oublie que cela vient d'Allah. Et il y a un hadith qui est très connu également, l'histoire de l'homme, les trois personnes des Banu Israël, il y en a qui était chauve, il y en a qui était aveugle, et l'autre qui était atteint d'une maladie de peau. Ils ont invoqué Allah, ils ont obtenu al-shifa min Allah et al-ni'am min Allah, en plus d'avoir la santé. Il y en a un qui voulait un troupeau de vaches, l'autre de chameaux et l'autre de moutons. L'histoire est connue. Qui ne connaît pas l'histoire? On ne raconte pas, hein? Tout le monde connaît. Et à un moment donné, connaît pas? Taqillah ya akhi. Tu connais pas cette histoire? Hein? Qui a marqué le but France-Argentine? Tu ne regardes pas football. Sinon, on t'aurait clashé grave. Là, hein? Parce que si tu savais qui avait marqué. Et ça, c'est les hadiths de base, ça, de la madrasa, des enfants, c'est des grands durous. Les hadiths qui rappellent le danger de l'ingratitude et le fait que quand on est ingrat, Allah peut tout reprendre. Et quand on fait preuve de choukr, Allah est satisfait de nous. Allah nous garde nos bienfaits et nous accorde en plus dans le akhira. Ainsi, ils ont eu la santé. Ils étaient malades, ils ont invoqué Allah, ils ont eu la santé. Et l'ange leur a demandé quel est le al-ahabul amwal ilay, quel est le bien qu'ils aiment le plus. Donc ils ont eu, il y a un qui a eu un troupeau de chameaux, l'autre de vaches, bœuf ou vache, peu importe, et l'autre de moutons. Et à un moment donné, Allah envoie un ange, des anges qui rencontrent ces gens sous la forme de personnes pauvres, c'est-à-dire c'était eux avant, ils tendent la main. Et deux parmi eux, je ne sais plus, c'était le lépreux et celui qui avait un problème de peau, ils ont dit que non, cet argent c'est à nous, c'est notre bien, on ne donne rien. Et Allah a tout repris, parce qu'ils ont été ingrats. Et celui qui était aveugle, il me semble que c'était lui, hein, celui qui était aveugle, il a fait preuve de shukr ala ni'ma, il a fait preuve de reconnaissance, il a donné, et Allah l'a gratifié la récompense. Et la grande leçon à retenir, c'est que lorsque Allah te donne un bienfait, sois reconnaissant, fais preuve de shukr, et donne, fais, partage ce bienfait avec ton prochain, et ne considère jamais que ce que tu as obtenu, tu le méritais. Parce que personne ne mérite un grain de riz de ce dunya. On est conscient de ça. Personne ne mérite le moindre bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla. Parce que tellement nous cumulons des péchés, que si Allah devait peser les péchés à l'unité et en fonction des péchés, supprimer les bienfaits, la hawla wa la quwwata illa billah. Heureusement qu'Allah est Rahman, Rahim, Karim, Wadud. Et Allah est clément envers nous, et Latif, et Hakim, et Khabir. Il connaît nos faiblesses également, et qu'Allah n'agit pas avec nous de cette façon. Malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Allah nous garde en bonne santé. Allah nous accorde des bienfaits, mais attention, à un moment donné, il faut être capable de réaliser tout ça et de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Ainsi, comment sortir de cette nature humaine qui est mauvaise ? Dans la nature humaine, il y a plein de choses qui ne sont pas bien. Et c'est là l'épreuve. Parce que l'être humain, c'est la créature qui va se dépasser pour Allah, qui va dépasser sa nature humaine pour Allah. Qui peut me citer les penchants, les mauvais penchants de l'être humain? Il y a ça, c'est ce qu'on a cité. On avait parlé, وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Aimer l'argent, païsa, bot, pasan. Y'aime l'argent. وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Mon argent, touche pas mon argent. هذا. Également, le fait que le cœur de l'homme penche vers le zina. Ça peut être un homme marié, 15 ans, 20 ans de mariage, 4 étoiles là. C'est quoi 4 étoiles? C'est pas 4 coupes du monde, hein? C'est 4 beaux enfants, mashallah. Stabilité, maison, travail, tout correct. Pas le moindre problème. Une vie stable. Un homme exemplaire. Un modèle de réussite, et c'est quelqu'un tranquille. Stagiaire. Stagiaire qui vient travailler dans le bureau. Et son tête il tourne, fait 360 degrés. Fitnatun nisa, ce n'est pas l'indice quoi misogyne, hein, que personne n'ait une mauvaise interprétation. La man yahdur, wa la man yasma. Ni ceux qui sont présents, ni ceux qui vont écouter les enregistrements. Ce n'est pas l'indice quoi misogyne. On parle de la faiblesse de l'être humain. Combien d'hommes de ce dunya, même en politique, même dans le sport, même les grands artistes ont été humiliés, déshonorés de ce monde par le biais de la presse, parce qu'ils ont trompé leur femme, parce qu'ils ont une aventure avec une personne, ainsi de suite, et ils ont été déshonorés. Certains ils sont descendus totalement dans l'échelle de l'estime de la société parce qu'ils ont succombé au fait de l'atonisme. C'est une réalité, Ikhwan et Fillah. Donc ça fait partie des penchants de l'être humain. Et il y en a d'autres. Ainsi, l'homme, le mu'mine qui se distingue, le mu'mine qui est aimé par Allah, c'est celui qui arrive à dépasser la nature humaine pour s'en remettre à Allah. Et quelle est l'action de laquelle on voit vraiment ce dépassement? Hein, Chouaib? Quelle est l'action au quotidien? Quel est le pilier? Alors, on a donné la réponse. Quel est ce pilier qui permet à l'homme d'aller à l'encontre de sa nature bestiale, on pourrait dire? C'est ce qu'on vient de vivre, le Ramadan. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'approches pas de ton épouse et tu fais preuve de patience. Quand tu es en colère, ce n'est pas uniquement ça, Ramadan, hein? C'est également au moment où si quelqu'un il a ça, bahu ahadun, si quelqu'un l'insulte, ce n'est pas juste quelqu'un qui regarde, pour rester poli, hein, il regarde à travers, pour ne pas dire le gros mot créole, parce que ça, ben créole, il n'aime pas ça. Hein? Combien de monde l'a tia sab? Parce que la garde, elle est en bœuf, comme il dit. Ça rien, il est là. Et là, on ne parle pas d'un regard déplaisant. On parle de idha sabahu ahadun aw shatamahu, quelqu'un qui vient qui t'insulte, qui te dit des paroles vraiment déplacées, et la personne dit inni sa'im, je suis en état de jeûne. Bref, dépasser tout ce qui nous fait chuter vers les mauvais penchants de l'être humain pour arriver à la'allakum tattaqun, la piété, une relation profonde et qui s'imprègne de l'invisible et sans remettre à Allah Azza wa Jal. C'est le vrai tazkiya, on le retrouve vraiment de nos amal, du quotidien, de nos piliers. Ce n'est pas pour rien Si le hadith Qudsi, c'est ce qu'on voit de Riyad al-Salihin en ce moment à Saint-Clotilde, hadith Qudsi très connu, où Allah Azza wa Jal rappelle que la meilleure façon pour un mu'min de se rapprocher d'Allah, c'est « mimmaftaratuhu alayhi » par les actions qu'il a légiférées, qu'il a rendues obligatoires, le tazkiya à condition de les accomplir de façon intelligente, consciemment et en prenant compte de l'importance de ces actions et de l'esprit de sacrifice qu'il y a à travers les actions et non pas une action par routine. Hada. Et donc, pour dépasser cette nature humaine, il y a des amal. Parce que le but, ce n'est pas juste de dire que l'homme est mauvais, que l'homme est faible, non. Le but, c'est de rappeler que l'homme est faible, mais à l'exception de telle catégorie de personnes. Et de la sourate al-Ma'arij, la suite, c'est « illal musallin ». La première catégorie de personnes, de croyants, qui va s'en sortir, qui va arriver à dépasser cette nature humaine qui le plonge vers le péché, vers le désespoir et l'ingratitude, la première catégorie, c'est « sauf ceux qui pratiquent la salah, alladhina hum ala salatihim da'imun » qui sont assidus à leur salah. Et c'est ce qu'on va développer, incha'Allah, la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que, il y a des fois où, je vous le dis très clairement, on est arrivé à une époque où on veut séduire. Si tu amènes un discours étincelant, un discours croustillant, avec une thèse philosophique qui permet aux croyants de comprendre qu'en finalité, la religion, ce n'est pas de la pratique, ce n'est juste qu'une relation de cœur avec Dieu. Et que du coup, on est arrivé à une époque au 21e siècle où on n'a plus à comprendre la religion comme c'était compris par les pieux prédécesseurs et on doit évoluer. Celui qui amène ce discours, là, les gens sont heureux. Ashratu sa'a, as-sughra, ça viendra une époque où ce qui est réellement haram, au fur et à mesure, finira par craqueler et par être considéré comme quelque chose de normal, d'acceptable. Arriba, l'intérêt. Combien de personnes ouvrent la porte à l'intérêt? La hawla wa la quwwata illa billah. Le zina, l'adultère, ce n'est pas encore le cas. Comptez les jours, comptez les mois, comptez les années. De nos jours, amener un discours d'ouverture. Ah oui, c'est ça, un discours d'ouverture. Mais ce n'est plus de l'ouverture, c'est un discours de... On appelle ça un discours ibahiyya. Ibahiyya, c'est quoi? C'est rendre tout mubah. Considérer que tout est autorisé. Et qu'avant... Ceux qui disaient que c'était haram, ils n'avaient pas compris. Ou alors, le monde a évolué. Ce qui était interdit avant, de nos jours, devient tout à fait acceptable. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa subhan al-hakim al-qadir. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui est sage, celui qui a dit al-yawma akmaltu lakum din wa rabbul ka'ba. Par le Seigneur de la Ka'ba. Jamais une action qui était interdite à une époque ne pourra être considérée comme halal, ou une action qui est vice-versa. Parce que ça, c'est le tahkim, c'est le shar' d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah te dit que le riba, l'intérêt, c'est pas bon, ou que l'adultère est mauvais, et ainsi de suite, on doit être convaincu, être persuadé que c'est dans le respect de ces ordres divins qu'il y a le succès et l'apaisement et la réussite fi dunya, l'avancée de le sirat al-mustaqim pour continuer le sirat al-mustaqim au jour de qiyama, afin man yamshi mukibban ala wajhi yahda amman yamshi sawiyan ala sirat al-mustaqim. Et dans ce dunya, on demande quoi? Allah madina sirat al-mustaqim. Vous rappelez de ce tafsir, les ulama disent, Sa'di rahimahullah dit, celui qui durant toute sa vie avance dans le droit chemin, cette personne fera partie inchallah de ceux qui le jour de qiyama avance le droit chemin jusqu'à l'accès au jannah. Ikhwani fillah, faisons attention à ces discours qui vont dans tous les sens. Et ainsi, quand on oriente un discours vers les cinq salats, ben certains vont considérer que pourquoi un grand classique comme la cinq, comme les prières, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il n'y avait pas un autre sujet, il n'y avait pas un débat philosophique plus intéressant, plus accrocheur que la prière. Ikhwani fillah, la clé c'est la salat. Le mu'min, il prend conscience de ses prières et du lien avec Allah Rabbul Izzah. Il dépasse tous les erreurs, tous les manquements, tous les défauts qu'il peut y avoir dans l'être humain. Et il se rapproche d'Allah Azza wa Jalla. On va voir donc les exceptions. C'est « illa al-mussallin », ça on a vu. Et également « walladhina fi amwalihim haqqun ma'loumun lissa'ili wal mahroum » et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité. Parce que être mu'min, c'est prier. Mais être mu'min, c'est également regarder la personne qui est en face de toi. C'est le culte d'Allah Rabbul Izzah, mais c'est également le relationnel avec les gens. Et ça, on le retrouve dans la première sourate. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. As-salah. Et juste après la salah, il y a quoi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et c'est là toute la cohérence du dîn. Imaginez que moi, je ne parle pas de moi, mais une personne, grande barre, mashallah, 5 salats au premier rang, assidu au tahajjud, mashallah, un exemple parmi les exemples, mais son propre voisin ou son beau-frère, sa belle-sœur, un neveu, un vieux tonton, quelqu'un de sa famille, il a financièrement, il ne s'en sort pas, n'arrive pas à payer son loyer, il a des difficultés, et toi, tu vas te réfugier derrière ta piété, entre quatre guillemets, hein, ta piété, et tu es persuadé que avec ça, tu es waliyun min awliya illa, tu es un proche d'Allah. As-tu oublié que dès le départ de la sourate al-Baqara, Allah Azza wa Jal énumère les qualités des pieux, et parmi ces qualités, iman bil ghaib, la prière et le lien avec les autres, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui donne de ce qu'on leur a donné, la relation avec ton prochain, le fait de tendre, de venir en aide, de tendre la main, oui, de venir en aide à celui qui a besoin de toi, ça, ça fait partie des qualités des croyants. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui se distinguent et qui ne sombrent pas dans ces erreurs. Et walladhina yusaddiquna biyawmiddin, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution. Si on devait faire un parallèle entre les versets, ce verset-là, ce serait le parallèle avec alladhina yu'minuna bil ghaib. Ajib, kala, le Coran, c'est magnifique. On retrouve des parallèles, des effets miroirs entre les versets. Alladhina yu'minuna bil ghaib, qui croient en l'invisible, et là on a ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, et l'autre, la dernière catégorie, walladhina hum li furujihim hafidhun, et qui se maintient de la chasteté. On parlait du danger de l'adultère, ceux qui arrivent à s'en éloigner, et le verset sera conclu encore une fois par walladhina. Après, il y aura d'autres points, j'ai oublié. Ceux qui respectent leur engagement, ça c'est le mu'amala, les relations avec les gens. Et combien parmi les pieux et les personnes assidues aux mosquées, lorsqu'ils se retrouvent face à un banquier, ils perdent leurs moyens. Lorsqu'il s'agit d'un taux zéro ou d'un taux 1%, 2%, ils oublient tout leur attachement avec le dîn, parce qu'il s'agit de foulous. Il s'agit de monter un bâtiment ou d'acheter un terrain et tout. Et là, on oublie tous nos principes de dîn. C'est comme si que, avec notre Seigneur, c'est dans la masjid. Et quand il s'agit de mu'amala, de l'argent, là, c'est un autre mot. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, ces versets, ce couplet de versets parle de la façon de travailler et qui témoigne de la stricte vérité et ainsi de suite. Et il est conclu par le verset 34. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et qui sont réguliers de leur salat. On verra pourquoi est-ce que ça commence par leur salat et ça termine encore une fois par leur salat, ça se conclut par leur salat. Et l'annonce de bonne nouvelle, أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ, ceux-là sont honorés dans des jardins, c'est-à-dire de le jannah. اللهم اجعلنا منهم, qu'Allah nous honore, qu'Allah nous permet d'avancer de le droit chemin, qu'Allah nous protège des waswasa de shaytan, des insufflations du diable, qu'Allah nous protège du nafs qui amma qui nous pousse à accomplir le mal, qu'Allah nous protège et protège nos enfants des mauvaises fréquentations, qu'Allah nous protège de tout ce qui est mauvais, également du mauvais regard, de tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, et qu'Allah nous permet d'avancer jour après jour sur le surat al-mustaqim. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khair. On fera quoi encore vendredi prochain, inshallah. Vendredi 13, on fera Dars, inshallah.